Vous nous présentez Amant, donc votre dernière réalisation, projetée à la dernière Mostra, film que vous avez également écrit avec votre complice de longue date, Jacques Fieschi. Comment travaillez-vous avec lui et quel est votre mode opératoire? Vous n'êtes pas parti d'un ouvrage cette fois-ci, donc mais d'une page blanche.
Vous êtes nombreux, c'est incroyable.
Mais on est 20, non, je sais pas. On est beaucoup.
Ah, vous êtes 6.
Ah oui.
Ouais. Nicole, vous m'avez entendu?
Comment?
Vous m'avez entendu?
Oui.
Oui.
Mon travail avec Fieschi, oui.
C'est ça, oui. Votre mode opératoire et...
Mon 9e film, j'ai toujours fait tout avec Jacques.
Oui.
Avec Jacques, il m'a appris à écrire. En tout cas, il a une chose fantastique pour moi, très précieuse, et qui m'accouche de... Il m'accouche de mes sujets, quoi. Je pars tout le temps, à part pour Amant, avec un sujet personnel que j'élabore un peu, et puis après, je lui propose, et ensemble, on arrive à en faire un script. Mais là, c'était différent. Là, c'est lui qui m'a dit, tiens, on a eu une proposition d'un producteur, chez qui j'avais déjà fait un film précédent, Un beau dimanche, et il m'a dit, mais j'ai une petite histoire, là, je voulais en faire un roman peut-être un jour, là, je te la propose, il me l'a proposé, et c'était ça. Et ça m'a donné l'occasion de faire pour la première fois un film qu'on peut dire plus comme un thriller, un film autour de l'amour, mais l'amour traité comme un thriller, un amour qui peut être à la fois une menace, un désir, une menace, et qui devient, quand un trio se forme, toutes les cartes sont battues pour que les personnages courent vers le pire, quoi. Courent vers le pire. Parce que toutes les rivalités sont en jeu, toutes les humiliations sociales sont possibles, et puis ce sont des personnages qui, en tout cas pour les deux principaux, pour Stacy, enfin Lisa et Simon, joués par Stacy Martin et Pierre Ninet, on dirait qu'ils sont tout le temps plus agis qu'ils croient agir, mais en fait ils sont agis eux-mêmes par les circonstances. Et c'est pour ça que j'ai mis l'histoire en trois actes. Parce que dès le premier acte, la mort arrive, une mort qui est un accident, mais quand même quelqu'un qui est hautement responsable de ça. Et il nettoie cette scène comme une scène de crime, tous les deux. Et c'est comme s'il y avait eu pour eux une sorte d'imprimatur à ce moment-là de la mort qui va se retrouver au troisième acte quand ils sont un peu dans les mêmes circonstances, une belle maison, un autre homme, et puis il leur vient cette comme s'ils avaient été, j'ose pas dire le mot en ce moment, mais comme s'ils avaient été vaccinés par la mort, vaccinés par quelque chose de... Ils retrouvaient, en tout cas, parlons pas de vaccin, mais ils retrouvaient, ils mettaient leurs pas dans des pas qu'ils avaient déjà empruntés. Sans le savoir, d'ailleurs.
Est-ce qu'il n'y a pas l'idée aussi dans le film que les lieux influent sur les destins?
Comment?
Est-ce qu'il n'y a pas l'idée aussi dans le film que le lieu influe sur le destin? Parce qu'il y a...
Oui, oui. Oui, oui. Le lieu influe sur les destins. D'ailleurs, en trois décors, le corps, c'est très important pour moi, en trois décors tout à fait différents, c'est-à-dire c'est la fraîcheur de Paris des jeunes gens, urbain et nocturne, et puis au troisième acte, c'est la froide Genève, quoi, la légende froide de Genève, avec et puis au milieu, comme l'éclatant océan indien est enserré entre ces deux masses grises, et pourtant c'est dans cet univers paradisiaque que va s'accomplir que va qu'ils vont se retrouver et comme on pourrait dire, il n'aurait jamais fallu qu'ils se retrouvent, parce que c'est pas romantique, c'est pas un film romantique. Elle part pas avec lui, à partir du moment où elle le retrouve, non. Elle a été réparée par Léo, par son confort, par l'argent, par l'amour qu'il lui porte. Et elle veut plus de cette précarité qu'elle a connue avec Simon. Et aussi penser aussi qu'elle a été blessée très très profondément par leur rupture, mais voilà.
Est-ce que vous pouvez parler de votre choix de Benoît Magimel pour le rôle de Léo ? Parce que c'est un personnage qui est assez compliqué à jouer, en fait, parce qu'il doit être... C'est un homme d'argent et en même temps, on doit le trouver d'une certaine manière un peu aimable. C'est pas facile pour un acteur.
J'ai la chance incroyable de... J'ai déjà tourné avec Benoît Magimel un film qui s'appelle Selon Charlie. Et là, je ne savais pas qui devait jouer Léo. Et tout d'un coup, je me suis dit, enfin, parlons de Benoît Magimel. Il a à la fois quelque chose maintenant que, voilà, qui n'est plus le tout jeune homme de la pianiste. Il a pris une corpulence. Il peut être brut dans le personnage. Il a une sorte de brutalité. On croit que la source de sa fortune est assez opaque. On peut lui prêter bon, des choses qui sont pas très claires justement dans l'élaboration de sa richesse. En même temps, on dirait que quand il a rencontré Lisa, il lui dit par cette phrase très simple qui marque la fin du premier acte, si vous savez pourquoi je viens ici tous les soirs. Donc il vient dans une boîte de nuit des Champs-Élysées, il descend vers les vestiaires, il regarde cette fille qui tient le vestiaire, qui n'a pas l'air en très grande forme. Et après, quand on les retrouve ensemble, c'est trois ans plus tard, oui, et on sent qu'un lien très fort s'est tissé entre eux, mais encore plus de lui vers elle. Et qu'il l'adore, quoi. C'est comme si c'est une histoire auquel il n'espérait plus, une histoire. Alors après, ces deux hommes projettent sur cette femme comme leur fiction. Et on ne sait pas autant Simon que Léo. Et c'est pour ça que le temps du film, c'est aussi un temps de vous trouvez pas le mot à ma place, non, mais c'est quand on c'est le temps où elle bon
s'abandonne,
c'est la rescapée, quoi, voilà, sans livrer le secret du film, la femme, mais c'est comme un voilà, c'est elle qui, et elle devient vraiment romanesque effectivement quand elle pourrait vers la fin, sans trop raconter chose à vos lecteurs, quand elle pourrait emboîter sur la version de son mari, la version des faits, elle, pour la première fois, elle dit non, ça ne s'est pas passé comme ça, et elle va dire sa vérité, en payer le prix et partir, et s'en aller. Prix de sa... Oh, je ne trouve pas le mot, voyons.
Votre film est vraiment un film noir dans le sens le plus pur du terme, c'est-à-dire que à l'époque du film noir, ce qui caractérise le film noir, c'est qu'aucun personnage est totalement bon ou totalement mauvais. Ici, même la façon dont vous faites apparaître Benoît Magimel dans l'ombre, dans une espèce de couloir devant la porte du vestiaire, on voit pas son visage, on sent que c'est lui la menace, alors que c'est elle et c'est le personnage joué par Pierre Niney qui sont les criminel au sens de la loi, si on veut. Alors, il y a quelque chose de très, très trouble ici, où on sent que ni personne n'est... Pardon?
Répétez. Il y a quelque chose de quoi?
De trouble.
Oui. Oui, c'est vrai. C'est que même eux, tous les deux, quand on les découvre dans le premier plan du film, ils sont des amants, ils sont très jeunes, mais ils sont déjà dévorés un peu par le noir des draps qui les recouvrent. Mais oui, parce que c'est comme une sorte de lutte qui va s'opérer entre les ombres et la lumière, quoi, des lumières Ils ont pourtant tout pour être dans une... Voilà, ils sont jeunes, ils s'aiment, ils se connaissent depuis le centre aéré, mais tout d'un coup, voilà, la vie joue des tours, il l'a un peu cherché, la délinquance où il se trouve, Simon, tout d'un coup, il perd... Il arrive le pire de ce qui pourrait lui arriver dans cette délinquance, c'est-à-dire d'entraîner la mort de quelqu'un, pas plus de quelqu'un qu'il aime, d'un ami, de quelqu'un qui avait pour lui une affection très grande. Et on sent qu'il va traîner ça, il peut partir à l'autre bout du monde, il est voué à l'échec, et il le sait, il ne peut plus rebondir, il est... Même quand il nettoie ses planches, il a accepté son destin, il a même plus la force, peut-être, c'est moi qui extrapole sur mes personnages, mais de la rappeler, il y a quelque chose qui est mort en lui ce jour-là. Et même quand il... Moi, je le trouve le plus tragique, effectivement, c'est quand il revient, il la suit à Genève, où elle le met dans un hôtel pour migrants, et il attend qu'elle vienne le voir deux fois dans la semaine, qu'elle achète un manteau. Il n'est plus rien, quoi. Il n'est plus. Il a... C'est pour ça. Et l'idée du crime, du meurtre, arrive à ce moment-là, comme une sorte de dos dans l'impasse, quoi, dans le dos au mur. Il n'y a plus que ça. Ils ne sont pas criminels, ni l'un et l'autre. On voit bien que. Que c'est pas eux qui vont tuer, mais ils y vont sans savoir, sans comme bah oui, ce serait quand même pas mal de puisqu'elle veut préserver quelque chose qu'elle a découvert avec Léo, et c'est un peu, c'est pas cynique de sa part, mais ça montre bien que c'est que ça compte, quoi, comme elle le dit à un moment donné, quoi, dans la voiture quand il se retrouve dans la neige, son argent c'est lui. Comme voilà, si comme les femmes souvent, son pouvoir c'est lui, son argent c'est ce qu'il a fait, donc c'est lui. Elle n'a pas l'impression qu'elle se prostitue. Elle a l'impression que si elle l'aime, c'est parce qu'il a ce pouvoir là, et ce pouvoir là pour elle, tout d'un coup dans sa vie, après cette désertion de Simon, ben elle y a été très plus que sensible. En fait, il n'aura pas fallu qu'ils se rencontrent. C'est leur rencontre sur la plage qui est qui est le moment où l'histoire va verser vers le pire. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé là-dedans, c'est vrai. Oui, que c'est un film noir. Parce que j'ai toujours aimé le roman noir, et j'aime beaucoup le cinéma noir américain. Beaucoup, parce que ça dit beaucoup de choses des êtres, de leurs contradictions. Ça évite beaucoup la psychologie. On montre des gens tout le temps sur des arêtes vives de leur existence, là où ils prennent le plus grand risque, le plus haut risque. Et voilà.
Vous parlez de films noirs.
Pardon. Pourquoi avoir choisi une structure en trois actes? Je sais que oui, c'est un triangle amoureux, tout ça, mais pourquoi cette structure en trois actes?
C'est parce que c'est une figuration de la trilogie amoureuse, mais de la trilogie, enfin, de leur trio, c'est une figure de. À trois, mais parce que ça me permettait ces fractures de chaque fois avoir la surprise de ce qui s'est passé, comme si la mémoire de ce qui s'est passé, il fallait que je rende compte le passé, tout ce qu'ils ont vécu quand on ne les voyait pas. Il faut qu'on en ait la surprise et qu'on le comprenne. C'est pas une histoire que j'avais envie de raconter. C'est les bons en avant du temps qui aussi fait partie de ce qui est tragique, quoi, quand on la voit sortir dans la vestiaire des Champs-Élysées, après arriver en bourgeoise dans son hélicoptère pour le deuxième acte, et dans ses, et comme ça, riche cliente d'un palace dans le sang indien, c'est on bénéficie de tout ce qui s'est passé sans l'avoir vu, mais on le comprend et on est en contact, voilà. Et puis après il y a 6 mois. Mais en 6 mois, on voit qu'ils sont partis. À chaque fois, quelqu'un part. Le premier acte, c'est 6 mois partis. Le deuxième acte, c'est le couple sous l'impulse de Lisa qui quitte sans rien dire l'hôtel. Et quand on le voit revenir, là, on se dit, c'est, on comprend que c'est pas forcément elle qui l'a rappelé, mais quand même, et que là, effectivement. Ça va, la situation est trop instable pour que les choses puissent durer. Et je pense que dans ce film, j'aurais à faire ce que je faisais un peu dans tous les autres films. Enfin, on sent toujours qu'il y a quelque chose qui menace les personnages, comme un danger qui s'ouvre, même quand les choses sont très quotidiennes, quelque chose qui est une menace qui s'ouvre quelque part. Et qui enserre peu à peu les personnages. Et là, ça me donnait rien. Le récit me l'apportait vraiment sur un plateau, quoi. Et ça m'a permis comme ça de le traverser dans toutes les nuances de gris, de faire une marche de plus, peut-être. Mais je suis toujours surpris quand on me dit que c'est sombre. Oui, c'est sombre, enfin c'est noir, oui, mais vous allez peut-être rire, mais comme la vie, comme ça. Non, mais vous allez dire, mais quelle vision a-t-elle de la vie? Non, mais on échappe tout le temps au pire, de toute façon. On passe son temps à le contourner, à y échapper. Et puis l'amour est une denrée dangereuse. Parce qu'il y a une addiction, une dépendance, une rivalité possible, une fragilité. Tout se joue dans cette. Dans une passion, et c'est bien de. Voilà.
Alors, au début. Oui.
Est-ce que vous pouvez parler un peu de votre travail d'écriture à quatre mains avec Jacques Fieschi?
Comme je vous ai déjà dit que ce film-là, c'est lui qui y pensait pour la première fois. Oui, c'est lui qui m'a donné cette idée. Et après, avec Jacques, on parle longtemps avant même de se lancer dans le travail des scènes. On discute du film, de sa poursuite, de la caractérisation surtout des personnages. Et puis au bout de 4, 5, 6 jours, il part, c'est lui qui écrit. Je suis resté une actrice, hein. Je continue à dire les choses, à écrire, mais c'est lui qui. Non pas qu'il soit pas scribe, hein. Il est beaucoup plus que ça. Et disons, c'est lui qui écrit, il me rend des pages, je corrige, et on fait cet aller-retour jusqu'à ce qu'on ait fini le scénario.
Pourriez-vous parler du travail de notre compatriote Christophe Bocarn? C'est déjà c'est pas la première fois que vous travaillez avec lui. Qu'est-ce que vous lui avez donné comme instruction? Ou comme piste?
Je n'ai comme piste de. Il comprend très bien, hein, Christophe. Enfin, en tout cas, c'est la deuxième fois que je travaille avec lui et je lui reproposerai mon prochain film parce que je trouve qu'il a quelque chose qui. Autant je fais attention au cadre, autant le cadre appartient à la mise en scène, autant la lumière, je le laisse beaucoup faire et je suis toujours. Ébloui et par, comme d'ailleurs dans ce film, par le travail de Thierry Flamand pour les décors. Tous les deux sont des collaborateurs vraiment précieux. Et Christophe, bon, je ne suis pas la première qui a dit tant de bien de lui, mais il est. parce qu'il a en même temps quelque chose de sensuel qui peut être en même temps avec un style très fort. Enfin, c'est sensuel, mais sans pesanteur. Enfin, c'est à la fois sensuel et ça garde une austérité. Je sais pas comment il arrive à faire aller les deux choses ensemble, d'austérité et de sensualité. Ah, c'est la première fois que je le formule comme ça. Vous trouvez pas ?
Tout à fait.
Quoi trouvez-vous intéressant de faire évoluer vos personnages dans des environnements luxueux pour parler justement des sentiments ?
Pour parler des sentiments ? Il n'y a pas que du luxe dans le film. Au début du film, c'est pas luxueux.
Oui, il y a un contexte social très dur qui est décrit.
J'ai toujours aimé beaucoup parler d'argent. Parce que l'argent raconte pour chacun d'entre nous, révèle. Quel gouffre existe entre les possédants et ceux qui n'en ont pas, ceux qui en ont et ceux qui n'en ont pas. Et l'humiliation sociale que ça représente devant quelqu'un qui a beaucoup d'argent quand soi-même on n'en a pas. La puissance que ça lui donne, l'infériorisation dans laquelle on se sent. Et j'ai toujours. C'était déjà vrai quand j'ai fait le film Place Vendôme, mais j'ai toujours aimé. Dans un film, cette opposition des mondes sociaux. Parce que c'est notre vie, on les traverse, enfin, pour les plus heureux d'entre nous, on arrive à aller d'un à l'autre, enfin, en tout cas, même si on ne fait que traverser même si on s'établit soi-même dans une petite moyenne, mais enfin, alors qu'il y a des gens qui ne peuvent pas, qui restent, qui sont dans le ghetto de la pauvreté, et qui ne peuvent pas en sortir. Et donc, je trouve que je trouve qu'il y a... Enfin, comme ça, ça me vient sans que j'en fasse une définition politique ou sociale. Mais en tout cas, je trouve que c'est tellement vrai, tellement criant dans la vie, de voir que la mettre dans les films, c'est mieux que n'importe quel discours. Selon moi.
Au début du film, on voit une scène d'ultime razzia. Est-ce que c'est par hasard que vous êtes tombé sur cette séquence, ou est-ce que vous êtes fan de Kubrick ?
Je suis fan de Kubrick. De son premier film en particulier. J'aime beaucoup ce film. Mais en fait, je me suis un peu trompé, parce qu'en fait, ça nous a servi à une dernière réplique dans « Lui aussi, il va mourir ». Et il répond cette phrase assez... Mais comment tu veux finir? Or, je ne suis pas sûr qu'à la fin, il est arrêté, mais on ne parle pas de mort. Non, à la fin. Mais ça ne fait rien. Je trouvais que cette avancée, et la police qui arrive derrière lui, cet homme craqué, ça allait être bientôt ce qu'il allait vivre, lui. Donc, c'était comme...